Nous allons poursuivre la première lettre de Pierre, la première épître de Pierre. Comme vous savez, on parcourt tout le livre avec Pascal, toute la première épître, et on en est là au chapitre 4, première lettre de Pierre, chapitre 4, à partir du verset 7. Et j'ai intitulé mon message « Vivre dans la perspective du retour, vivre dans la perspective du retour de Christ ». Donc bien sûr, ça s'adresse à nous, Église, chrétiens, et je vous invite donc à lire ce texte avec ce titre « Vivre dans la perspective du retour de Christ ». Donc 1 Pierre, je lirai à partir du chapitre 4, verset 7, jusqu'au chapitre 5, pardon, verset 11. Donc 4, 7 à 5, 11. Et avant ça, je vais prier. Père Céleste, je te remercie encore de nous avoir laissé ta parole, Seigneur, qui nous fait tant de bien, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour vivre notre vie, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, ici, dans ce monde déchu. Seigneur, que nous recevions ta parole pour être plus fort, plus à ta ressemblance, pour être tes témoins dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc je lirai 1 Pierre 4 à partir du verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Résistez-lui fermement la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Un passage merveilleux pour nous. Pour nous, Église. Alors, vous vous souvenez, les chapitres précédents de cette première épître, eh bien, autant ces chapitres précédents nous parlaient de nos rapports avec le monde, avec les autorités civiles, on peut dire, pour gagner des âmes à Christ. Nos rapports, notre vie dans le monde non chrétien. Autant notre passage d'aujourd'hui, eh bien, nous parle de nos rapports les uns avec les autres dans l'Église. Avec une vérité centrale que je vous propose. Les relations entre chrétiens doivent être vécues dans la perspective du retour de Christ qui nous appelle à sa gloire. Les relations entre chrétiens doivent être vécues dans la perspective du retour de Christ qui nous appelle à sa gloire. Alors, pratiquement, de quelle manière sommes-nous exhortés à vivre nos relations entre frères et sœurs dans l'Église? Eh bien, je vous propose de voir ça en trois points. Premièrement, eh bien, nous sommes invités à vivre nos relations par l'amour actif, un amour actif dans le corps de Christ. Ça sera mon premier point. Deuxièmement, par une bonne attitude face à la réalité des souffrances dans le corps de Christ. Et troisièmement, par une attitude d'humilité. Donc, notre passage commence par la fin de toute chose est proche. Voilà. Ça doit être effectivement être notre motivation de Pierre exhortait les chrétiens de l'époque à vivre comme si Christ allait revenir là de façon imminente de leur vivant. Et si ces exhortations prévalaient il y a 2000 ans, à plus forte raison, 2000 ans après, plus de 2000 ans après, elles prévalent pour nous aujourd'hui. Parce que nous sommes encore plus près du retour de Christ et du jugement de ce monde qui aura lieu. C'est donc dans la perspective du retour de Jésus que nous sommes appelés à vivre, que tout chrétien devrait vivre en mettant en pratique ses exhortations dans l'Église et sans attendre. Parce qu'on ne sait pas à quelle heure le Seigneur reviendra. Parce qu'il s'agit bien de veiller pas jour par jour, mais heure par heure. Nous ne savons pas à quelle heure le Seigneur reviendra. Il viendra comme un voleur. Luc 12, verset 39. Alors une expression, être sensé et sobre. Soyez sensé et sobre, du verset 7. La version du semeur le traduit, j'ai trouvé ça parlant, la version du semeur traduit le verset 7 ainsi, je vous le lis. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. La première clé pour vivre une vie d'église selon la volonté du Seigneur, la première clé que Dieu nous donne, c'est laquelle? C'est la prière. Et on va voir que la prière, elle est omniprésente dans tout ce texte. C'est vraiment la première exhortation que Dieu nous adresse par l'apôtre Pierre. Priez. C'est la première clé pour vivre notre vie d'église comme Dieu le veut. Et c'est par la prière que nous ne serons pas étonnés lorsque surviendra l'adversité et que nous pourrons la surmonter. Et bien sûr, la lecture de la parole, bien sûr. Après la prière, la première exhortation pratique, avant toutes les autres, avant toute chose, verset 8, que Pierre nous adresse, c'est de nous aimer les uns les autres. L'expression « les uns les autres » revient trois fois dans les versets 8 à 10, les uns les autres, dans nos rapports les uns avec les autres. Donc c'est pas à sens unique, hein, c'est vraiment les uns avec les autres. Alors je vous propose justement mon premier point, les relations entre chrétiens doivent être vécues dans la perspective du retour de Christ par un amour actif dans le corps de Christ. Et j'insiste, actif. Cet amour dépasse les sentiments. Il doit être intentionnel, même si parfois on n'en a pas trop envie. Il doit être constant. Il doit être fort. La version Summer traduit « Aimez-vous ardemment les uns les autres. » Ardemment. C'est un amour qui est intentionnel. Un amour qui est fort. Cet amour, il couvre une multitude de péchés. Dans le sens qu'il ne va pas rappeler un péché qui a été confessé et qui a été pardonné. On ne va pas remettre encore des anciennes choses qui ont été confessées et pardonnées. Et effectivement, ça demande parfois de vouloir régler le différend avec tel frère, telle sœur, pour amener au pardon. Alors l'amour, aimez-vous ardemment les uns les autres. L'amour se manifeste concrètement par quoi? Par l'hospitalité, nous dit le texte, par l'hospitalité. Et l'hospitalité, eh bien, à l'époque de Pierre, elle était de mise parce que les chrétiens étaient persécutés. Et certains, eh bien, prenaient des risques en hébergeant des serviteurs itinérants. Ils pratiquaient l'hospitalité. Et puis aussi, à l'époque, il y avait encore beaucoup d'églises de maison. Et il se passait des cultes dans les maisons. Et une famille qui ouvrait sa maison, eh bien, elle mettait en action l'amour fraternel. De façon concrète, elle ouvrait sa maison pour les cultes. C'était ça, mettre l'amour en action. L'accueil. Pourquoi accueillir l'autre? Pourquoi accueillir l'autre? Même celui qui est différent, pas trop envie des fois, mais quand même, ou celle. Pourquoi accueillir l'autre? Mais parce que Christ nous a accueillis, nous qui étions si différents de lui à cause de nos péchés. Nous sommes invités, exhortés à accueillir. L'hospitalité, c'est l'accueil de l'autre. L'hospitalité sans rien attendre en retour. L'hospitalité est un témoignage d'autant plus fort pour des frères et sœurs étrangers, lorsque nous recevons des frères étrangers que nous ne connaissons pas. Elle est un acte d'amour fait à notre prochain. Et c'est un acte qui est fait non seulement à notre prochain, mais au Seigneur lui-même, qui a promis de récompenser l'hospitalité. Je citerai Matthieu 10, 41, je vous le cite, je vous le lis. « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » Celui qui reçoit. Oui, alors l'hospitalité pour manifester concrètement l'amour les uns envers les autres, c'est une clé. Une autre façon de manifester concrètement, pratiquement, l'amour les uns envers les autres, d'après ce texte, eh bien, c'est de nous mettre au service les uns des autres. Et là aussi, ça demande d'être intentionnel. De nous mettre au service les uns des autres. Et pour cela, eh bien, le Seigneur a pourvu son Église de dons. De dons. Chaque croyante a reçu un don du Seigneur. Et personne ne peut dire, je n'ai pas reçu de don, je suis doué pour rien, j'ai pas ma place ici dans l'Église. Non. Chaque croyant est important et a reçu un don du Seigneur de par sa grâce. Et la grâce, sa grâce, elle est suffisamment variée pour que tout le monde trouve son don qui n'est pas forcément le même pour toi que pour moi. Alors, d'après ce texte, il y a deux catégories de dons. Il y a les dons de la parole, premièrement, donc pour enseigner la parole, et l'enseigner aussi bien aux petits et aux grands. Les enfants aussi ont besoin d'être enseignés. Alors, le don de la parole, effectivement, le texte nous dit, si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Frères et sœurs, ça veut dire avoir la parole de Dieu en nous, nous en nourrir quotidiennement, pour avoir, pas pour bombarder de versets bibliques une personne, mais en étant conduit par l'Esprit de Dieu pour avoir la bonne parole au bon moment, à la bonne personne et au bon endroit. Et pour ça, il nous faut être vraiment connecté à Dieu. Et là, nous sommes aidés, nous avons l'aide du Saint-Esprit. Oui, nous sommes, même si tout le monde n'est pas prédicateur, enseignant, nous sommes tous appelés à nous nourrir de la parole de Dieu. Et on peut avoir une parole pour quelqu'un que le Seigneur met sur notre route qui soit vraiment pour cette personne. La deuxième catégorie de dons que le Seigneur dispense à son Église, c'est le service. Alors, enseigner la parole, c'est aussi un service. Et la deuxième catégorie de dons, c'est le service pratique. Le service pratique. Et peut-être vous vous demandez, si vous vous demandez quel est mon don, quel est votre don ? Eh bien, c'est déjà un excellent début. C'était là un excellent début parce que vous êtes conscient que vous pouvez apporter quelque chose à l'Église. Et déjà, vous apportez votre présence. C'est un excellent début parce que c'est à vous de le trouver, votre don. C'est à vous de le trouver. Et lorsque vous avez une petite idée, eh bien, vous pouvez en parler au responsable. Parce que c'est au responsable de confirmer aussi le don de tel frère ou de telle sœur. De le confirmer. Alors, ça commence, bien sûr, par écouter ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Et vous pouvez en faire part aux responsables. Alors peut-être, vous ne savez pas encore trop, mais mieux vaut essayer. Vous savez, on a le droit de se tromper. Hein. À partir du moment où vous voulez servir le corps de Christ, je crois que Dieu va vous montrer. Il nous montre à chacun. Mieux vaut essayer que de ne rien faire. Mieux vaut essayer au risque de se tromper que de ne rien faire. Par exemple, l'école du dimanche. Vous aimez les enfants, mais vous ne savez pas trop si c'est votre place. Essayez avec quelqu'un d'expérimenté, bien sûr, hein, sans vous forcément vous parachuter là seul, mais essayez, si vous avez à cœur l'école du dimanche, là on est dans l'enseignement. Si vous avez à cœur de décorer la salle, si vous avez des idées, pendant l'expo Bible, on a vu qu'il y avait des talents. Quand on a vu la salle transformée, Voilà. Ou si vous aimez rendre service en allant chercher quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, voilà aussi une façon. C'est le don du service. Ou si vous avez le don de donner pas seulement de votre argent, mais du temps à telle ou telle personne. Qu'est-ce que c'est qui va nous aider à identifier notre don? Eh bien, c'est le plaisir qu'on a à l'exercer. On le fait non pas en traînant des pieds, non pas en soupirant, il faut encore que je prépare quelque chose, je suis fatigué. Non, c'est le plaisir qu'on a à l'exercer. C'est pas une corvée. Attention, ça peut vous demander, ça nous demande du travail. Et c'est ce qui nous est demandé. Lorsqu'on a identifié notre don, il nous est demandé de le travailler, notre don. Ça veut dire pour le développer. Et ça peut conduire à se former. Pour ceux qui est plongé dans la parole de Dieu, ça peut être, qui aimait lire la parole de Dieu, ça peut être faire des cours bibliques, dans une école biblique ou à distance. Pour ceux qui aimaient les enfants, vous qui aimez les enfants, ça veut dire aussi avoir des principes pratiques, très concrets pour comment attirer l'attention des enfants, pour avoir des bonnes amorces, des bonnes introductions. En tout cas, notre don, le don que nous avons reçu, il nous est demandé de le travailler. Et si on aime ce qu'on fait, ça sera pas une corvée. Ça peut être le don de la musique aussi, d'accompagner les cantiques, de travailler votre instrument, de faire des gammes. Les dons viennent du Seigneur et sont pour son service. Dieu nous donne pour son service et pour le bien les uns des autres. Et les dons que le Seigneur nous donne sont pour sa gloire et pas pour la nôtre. Je crois qu'il y a deux attitudes extrêmes à éviter par rapport aux dons. Deux extrêmes à éviter. Première attitude, c'est enterrer son don, enfouir son don. On ne veut surtout pas se mettre en avant. On veut surtout pas se mettre en avant. Ça s'appelle de la fausse humilité. Parce que nous avons reçu un don. Et notre don, il doit être pour le service du Seigneur et pour le bien les uns des autres. Première extrême à éviter, enterrer son don, ne pas le mettre en action. Deuxième extrême à éviter, c'est tout le contraire. C'est de l'utiliser pour sa propre gloire. Ah, qu'est-ce qu'elle est douée pour la musique, pour telle ou telle tâche ou pour tel enseignement. Alors, que faire? Eh bien, soyons clairs, les frères et sœurs, si nous le faisons pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de peur à avoir. Si notre cœur, et c'est à nous de sonder notre cœur, si nous le faisons pour la gloire de Dieu, eh bien, dans l'attente du retour de Christ, parce qu'il va revenir, il nous demandera des comptes sur qu'est-ce que nous avons fait des dons qu'il nous a donnés. Eh bien là, on peut y aller. Rappelons-nous que nous ne sommes que des canaux entre les mains de Dieu. Dieu nous bénit dans l'exercice de nos dons. Et quand Dieu nous bénit, c'est pas pour que nous gardions les bénédictions pour nous, c'est pour que nous soyons en bénédiction à d'autres. Pour qu'à leur tour, cela soit en bénédiction à d'autres. On peut pas enfermer la grâce de Dieu. Elle est dans sa nature, elle est faite pour se multiplier. Les dons de grâce doivent rejaillir sur les autres. Donc, première exhortation, l'amour en action, dans l'Église. Puis, des versets 12 à 19, vient une longue exhortation sur la souffrance. Sur la souffrance, pour nous avertir de ne pas être surpris lorsqu'elle survient dans l'Église. Et je vais y revenir. Donc, mon deuxième point, avoir, dans nos relations les uns avec les autres, avoir une bonne attitude face à la souffrance. Dans cette seule épître de Pierre, le mot souffrance, il est utilisé pas moins de 21 fois. De quoi faire réfléchir, c'est une réalité. Hein. Oui, on l'a chanté tout à l'heure, la souffrance, elle fait partie de la vie du chrétien, c'est normal. Alors comment le vivre? La parole est là pour nous équiper face à la souffrance. Je relis le verset 12 du chapitre 4. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Pourquoi ces souffrances? Dans l'Église en plus, qui plus est. Dieu parfois nous en livre, On ne le voit pas toujours, mais je crois qu'il nous en évite certaines qu'on ne pourrait pas supporter. Mais d'autres, il ne nous les évite pas. Elles sont même dans sa volonté, verset 19, selon sa volonté. Et elles nous sont même imposées. Chapitre 5, verset 9. Ces souffrances nous sont imposées. Alors on peut se poser la question, pourquoi un Dieu d'amour agit-il de la sorte? Eh bien, ces souffrances, elles ne sont jamais pour rien, mais elles ont un but. Un but. Ce but, c'est de nous éprouver, d'éprouver notre foi, verset 12, et de nous rendre plus à la ressemblance de Christ, qui lui-même a souffert. Christ, Jésus nous a appelés à sa suite. Il a souffert. Ne soyons pas étonnés lorsque nous souffrons. Mais les souffrances que Christ a vécues le conduisent à la gloire. Et Dieu a le même but pour vous et pour moi, nous conduire à la gloire. Mais pas de gloire sans souffrance. Verset 13 du chapitre 4, il s'agit de souffrir avec Christ plutôt que de souffrir pour lui. Souffrir avec Christ. Pourquoi ? Parce que la souffrance va nous aider à mieux connaître Christ dans ce qu'il a ressenti lui-même. Et lui-même nous accompagne quand nous souffrons. Quand nous souffrons, je précise, à cause de lui et de l'Évangile. Et c'est cette proximité avec le Seigneur donnée par la souffrance qui va nous faire ressentir, paradoxalement, humainement parlant, une grande joie. Une grande joie, une allégresse, parce que nous connaîtrons mieux le Seigneur en traversant ces souffrances. Voilà ce qui nous donnera une grande joie et ce qui glorifiera Dieu dans son beau nom, le nom de Jésus. La souffrance d'un chrétien, elle est la preuve que l'Esprit de Dieu repose sur lui. Et le Saint-Esprit qui non seulement nous rend capables de la supporter, eh bien, c'est lui qui nous rend capables de la supporter et c'est aussi lui qui nous réjouit dans la souffrance. C'est pas qu'on aime souffrir, mais quand on sait pourquoi on souffre, le Saint-Esprit nous donne la joie pour traverser ces souffrances parce qu'elles ne durent qu'un temps. Il nous rend capable de la supporter et il nous rend aussi capable de nous en réjouir, le Saint-Esprit. Alors, de quelle souffrance s'agit-il ici? L'apôtre, il précise bien, hein, l'apôtre Pierre, il parle des souffrances pour la cause de l'Évangile et non pas des souffrances qui sont occasionnées par nos propres péchés. Jésus a connu la souffrance à cause de nos péchés. Pas des siens, il n'en avait pas. Il est le Fils de Dieu. Ces souffrances, elles peuvent être physiques ou morales. Jésus a connu les deux. La souffrance physique à la croix et la souffrance morale d'être séparé de son Père pendant un temps. Et ces souffrances peuvent venir, bien sûr, de l'extérieur, de la persécution de la part des non-chrétiens qui, en présence de chrétiens, ne supportent pas, même si parfois nous ne faisons rien pour ça, mais la présence même d'un chrétien peut mettre mal à l'aise un non-chrétien parce que ses péchés sont mis en lumière de par la simple présence d'un chrétien, d'une chrétienne. Et certains ne supportent pas ça au point que parfois ils vont persécuter le peuple de Dieu. Oui, les souffrances peuvent venir de l'extérieur, mais pas seulement. Les souffrances peuvent aussi venir à l'intérieur de l'Église. Regardons le texte. L'apôtre Pierre, parle de la fournaise qui sévit parmi vous. D'autres traductions disent au milieu de vous. Il s'adresse bien à l'Église, là. Et donc, je crois qu'il inclut aussi les souffrances qu'on peut s'infliger entre chrétiens ou qu'on peut subir. Est-ce que c'est pas là qu'on est le plus surpris? Quand Pierre dit « Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous », l'apôtre Pierre nous dit de ne pas être surpris. Est-ce que c'est pas là qu'on est le plus surpris quand on souffre dans l'Église? Comment ça a pu arriver dans l'Église? On est instruit des choses de Dieu. On est frères et sœurs. On sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ça, on le sait. Dans la réalité, ce sont des réalités. Vous avez souffert, nous souffrons, nous avons souffert, nous souffrirons, il y aura. Ce sont des réalités. Il y a des souffrances dans l'Église qu'on ne peut pas éviter. Qu'on ne peut pas éviter. Et cette épître est là pour nous fortifier. Elle est là pour tout fortifier parce qu'on trouve tout ce dont on a besoin dans la parole de Dieu qui avait prévu ces choses pour nous aider à les surmonter, Ne soyez pas surpris. Ne soyons pas surpris. Et c'est difficile de voir, effectivement, d'admettre qu'il y a des souffrances dans l'Église, qu'on peut parfois se blesser. Mais nous avons tout ce qu'il faut dans la parole de Dieu pour les surmonter. Parce que ces souffrances, elles ont un but pour nous rendre plus forts, et je vais y revenir. Alors, parmi quelques problèmes qui peuvent surgir dans l'Église, on peut en citer quelques-uns. On trouve le manque d'écoute, quelqu'un qui ne se sent pas écouté. On trouve, entre responsables, les rivalités de pouvoir. On trouve des problèmes moraux. On trouve des problèmes doctrinaux. Ce sont aussi des réalités d'une église à l'autre, qui parfois provoquent des désaccords. Alors, ce sont des réalités, et le directeur de l'Institut biblique de Bruxelles, James Hutchinson, vient d'écrire un livre qui vient de sortir. Et s'il a écrit ce livre, c'est qu'effectivement, ce sont des réalités qui se constatent dans les églises, et on ne doit pas en être effrayé. Mais on ne doit pas non plus ne pas les voir. Son livre s'appelle « Sacré désaccord », et on peut vraiment lire ce titre, « Sacré désaccord ». Ce sont des désaccords qui sont entre chrétiens. Et il donne des pistes pour y faire face. Et la piste que j'ai entendue, parce qu'il a présenté son livre et je ne l'ai pas encore lu, mais ce que j'ai retenu, c'est que le seul motif qui justifie de combattre le bon combat, le seul motif qui justifie de rester sur ses positions, c'est la défense de l'Évangile. La défense de l'Évangile. Et je rajouterai pour le nom de Christ, selon versets 14 et 16. C'est le seul motif qui justifie le combat, qui est le bon combat. C'est là le bon combat, la défense de l'Évangile. Et on sait bien que parfois, l'Évangile est parfois attaqué. Les autres désaccords qui ne remettent pas en question l'Évangile, eh bien, ne méritent pas qu'on se dispute. On peut en discuter, oui, mais parfois, il faut simplement lâcher. Et ce qui est important, c'est effectivement qu'on puisse entendre des avis dans l'Église. Je citerai simplement la tenue vestimentaire, bien sûr. Il nous a demandé d'avoir une tenue correcte. Hein. Mais en tout cas, voilà, n'allons pas jusqu'à mettre des règles. Chacun sait effectivement ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Ça peut être le style de musique dans l'Église. Est-ce qu'on met une batterie? Est-ce qu'on ne met pas de batterie? Voilà, ce sont des points secondaires qui ne méritent pas qu'on se dispute parce que ça ne remet pas en question l'Évangile. L'Évangile qui est notre bon combat. Alors oui, Pierre nous dit ce n'est pas de ne pas souffrir à cause de notre péché. Et il cite une liste de péchés, et c'est frappant parce que Pierre va mettre au même rang que le meurtre ou le vol un autre péché qui est, je vais dire, une curiosité malsaine, s'ingérer dans les affaires d'autrui. Il le met au même rang que le meurtre ou le vol. S'ingérer dans les affaires d'autrui, verset 15. Eh bien, déjà, ça génère aussi de la souffrance. Vous savez, la médisance. Déjà, ça génère de la souffrance chez celui qui en est victime, et ça génère aussi de la souffrance chez celui qui propage ces choses. Parce qu'après, voilà, il a transmis des choses qui devaient rester confidentielles. Et vous savez, ça peut être très subtil dans l'Église. Ça peut être très subtil, ça peut paraître très spirituel. Dis-moi tout ce que tu as appris sur un tel. Viens, viens, on va prier pour lui. Ça, on sait faire. Ça m'est arrivé aussi. Mais il ne s'agit pas de révéler un péché qui a été pardonné, qui a été confessé et pardonné. Ça a été couvert. Il ne s'agit pas encore de le remettre à la surface. Mais attention. Si l'intégrité de l'Église est menacée, si on a connaissance d'un péché grave qui menace l'intégrité de l'Église, là, il ne faut pas garder le silence. Il faut aller voir les responsables. Pourquoi ? Le verset 17 avertit bien. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Oui, va commencer par la maison de Dieu. Nous, l'Église, eh bien, nous aurons quand même à comparaître tous, chacun pour sa part, devant le tribunal de Christ. Voir 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Alors, Ça ne veut pas dire que notre salut que Jésus nous a acquis par, que nous avons par la foi dans son sacrifice, ça ne veut pas dire que notre salut est remis en question. Non, mais nous passerons devant le tribunal de Christ pour une juste évaluation de notre vie chrétienne, comment nous avons utilisé nos dons, et qui donnera lieu ou pas à des récompenses. Nous passerons tous devant ce tribunal. Alors, cette épître, elle est très pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu souffres? Que faire quand on souffre? Eh bien, au verset 19, l'apôtre Pierre nous exhorte à remettre à Dieu nos souffrances. Remettre à Dieu nos souffrances. Quand tu pries, quand tu souffres, dis-le à Dieu. C'est ce que Jésus a fait sur la croix. C'est ce que Jésus a fait sur la croix. Jésus qui a cité le psaume 31, verset 5, sur la croix. Je remets mon esprit entre tes mains. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et le verset 5 du psaume 31 qui continue, je le relis. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Oui, et Dieu l'a délivré de telle manière magnifique par la résurrection. Et puis aussi, le même verset 19, face aux souffrances, l'apôtre Pierre nous exhorte à faire le bien. À faire le bien, verset 19. Et on comprend, vous savez, la parole de Dieu, elle est magnifique. Amen, je crois qu'elle est magnifique. On comprend pourquoi ces exhortations qui visent à nous avertir sur la souffrance, où est-ce qu'elles viennent dans le texte? Elles viennent juste après l'exhortation de nous aimer et d'utiliser nos dons les uns au service des autres. Parce qu'en étant occupé de la sorte, on ne sera pas occupé à dire des choses indiscrètes ou on ne sera pas occupé, on n'aura plus de temps pour les conflits si on est occupé à prier et à faire le bien. Puis l'apôtre poursuit en donnant une autre clé pour de bonnes relations dans l'Église. Cette autre clé, c'est l'humilité, mon troisième point. L'humilité pour tous. Et il commence par une exhortation pastorale qui est adressée aux anciens. Exhortation qui vient juste après le rappel des souffrances présentes dans l'Église. Juste après, ce qui explique la présence du petit mot « donc » dans chapitre 5, verset 1. « J'exhorte donc les anciens. » Le « donc », c'est juste après tout ce que Pierre a dit sur la souffrance. « Donc, j'exhorte les anciens. » Et Pierre, eh bien, il va citer les écueils à éviter pour un responsable et il va aussi donner le bon modèle du responsable. Déjà, il va citer les écueils à éviter pour un responsable. Un mauvais responsable, il va travailler pour gagner au présent quelque chose de terrestre. Pour gagner présentement quelque chose de terrestre, c'est-à-dire de l'argent. Il va travailler pour avoir de l'argent. Mais pas seulement. Quelque chose de terrestre, c'est aussi pour gagner de la reconnaissance aux yeux des hommes. Pour acquérir un rang social qu'il n'a peut-être pas dans son travail. Bref, il travaille pour la gloire des hommes au lieu de celle de Christ qui est à venir. Au lieu de travailler dans la perspective du retour de Christ, qu'il ne voit pas encore. Et donc, quelqu'un qui travaille pour des choses terrestres, il va être amené à quoi faire? Eh bien, il va considérer que le troupeau lui appartient. Et ce qui va le conduire à dominer, non pas avec autorité, mais avec autoritarisme, en confondant pouvoir et autorité. Et malheureusement, frères et sœurs, eh bien, des églises bataillent avec ça. Des luttes de pouvoir, en oubliant que Christ a montré l'exemple de la suprême humilité. En oubliant que le troupeau appartient à Christ. Christ qui l'a acquis, qui nous a acquis au prix de son sang versé sur la croix pour nos péchés. Le troupeau que Christ a acquis au prix de son sang versé sur la croix pour nos péchés. Voir acte 20, verset 28. Le troupeau appartient à Christ. Et vraiment, nous avons besoin de nous en rappeler chaque jour. Et puis, de manière toute simple, toute naturelle, l'assemblée suivra plus facilement un responsable qui cherchera à être un bon modèle en imitant le modèle par excellence du bon berger, du souverain berger, Jésus-Christ. On est un bon responsable par imitation, en imitant déjà le Christ. Et l'Assemblée, l'Assemblée qui reconnaît la voix du bon berger, elle suivra des responsables qui suivent le bon berger. Pas besoin d'exercer autoritarisme et pouvoir. Non, cette autorité sera reconnue. En suivant Jésus-Christ, le modèle de l'humilité par excellence, modèle que Pierre a suivi. Pierre a montré l'exemple de l'humilité dans ce passage-là. Comment ? En se mettant ancien parmi les anciens. Pierre, qui a pourtant connu le Seigneur Jésus en chair, il se met ancien, moi, ancien comme eux. Il se met au même rang que ses frères anciens. Il a montré, il a compris l'humilité. Alors, il est bien placé pour exhorter les jeunes à être humbles par la soumission aux anciens. Les anciens qui ont plus d'expérience. Les jeunes. Il commence effectivement par exhorter les jeunes. Vous avez suivi comme moi, hein, je suppose, les actualités ces derniers jours, ces émeutes. Voilà, suite à ce jeune qui a été tué par un policier. On a constaté que près d'un tiers des émeutiers étaient des mineurs. Un tiers des émeutiers étaient des mineurs. Des mineurs à qui on n'a pas appris à respecter l'autorité. Peut-être certains parents sont dépassés pour tenir leurs enfants. Mais aussi, est-ce qu'on leur a appris à respecter déjà l'autorité des parents ? Et puis, pas seulement. Si certains jeunes se conduisent mal, c'est aussi parce qu'ils ont parfois un mauvais modèle d'autorité. L'autorité n'a pas montré le bon modèle, le bon exemple. Résultat, eh bien oui, il y a des révoltes. Frères et sœurs, prions pour nos autorités. Mais c'est pas seulement, Pierre ne demande pas seulement la soumission des jeunes aux anciens. Il ne demande pas seulement aux jeunes d'être humbles. C'est à chacun d'entre nous qui nous demande d'être humbles. Nous devrions tous dans l'Église faire preuve d'humilité. Pourquoi ? Pourquoi l'humilité est-elle une clé dans nos relations entre frères et sœurs ? Eh bien, c'est par l'humilité que nous sommes en communion avec le Seigneur qui a montré la plus grande humilité. Nous sommes en communion avec le Seigneur et nous sommes en communion les uns avec les autres dans l'humilité. Mais l'orgueilleux ne peut pas dire qu'il est en communion avec Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu lui résiste. Dieu résiste aux orgueilleux. Verset 5. Mais c'est aux humbles que la grâce est donnée par le Dieu de toute grâce. Verset 10. L'orgueilleux, il veut s'élever par lui-même et cherche sa propre gloire. L'humble, qui vit dans la perspective du retour de Christ et dans la foi, lui aussi sera élevé. Et recevra la gloire. Mais à la différence près, qui n'est pas des moindres, c'est que c'est Dieu qui l'élèvera. Il n'aura pas besoin de s'élever tout seul. L'orgueil, donc. Le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Et avec l'orgueil, il y a quelque chose qui va de pair avec l'orgueil, c'est l'inquiétude. Pourquoi ? Parce que l'inquiétude, elle est souvent la conséquence de l'orgueil. Et les deux sont un péché. En prétendant se passer de Dieu, ou en prétendant que Dieu n'est pas à la hauteur, donc je vais gérer. C'est parfois, examinons-nous, est-ce qu'on n'a pas des fois cette attitude ? Le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Et le contraire de l'inquiétude, c'est quoi ? C'est la foi, c'est la confiance en Dieu. Alors, par cette épître, Dieu nous invite à manifester l'humilité et la foi. Et comment concrètement manifester l'humilité et la foi ? Eh bien, encore une fois, en priant, par la prière. La prière, c'est déjà s'humilier devant Dieu. Encore une fois, par la prière, avec cette magnifique exhortation qu'il est bon de connaître par cœur, chapitre 5, verset 7, 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Christ a porté non seulement nos péchés sur la croix, mais nos fardeaux, nos soucis. Et il nous invite à nous décharger sur lui parce qu'il les a pris, nos péchés, il a pris nos soucis. En nous abandonnant à lui, par la prière, dis-lui tout ce qui te fait souci. Mais attention, s'abandonner à Christ n'est pas synonyme de relâchement dans sa vie chrétienne. On se laisse porter. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui rôde comme un lion rugissant. Le diable, Satan, il rôde comme un lion rugissant, un lion, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut terroriser. Il fonctionne par la peur, le diable. Mais il nous a demandé de lui résister, de ne pas le craindre. Comment résister au diable, concrètement? Eh bien, déjà, en identifiant sa tactique. En identifiant sa tactique et son but. Quel est le but du diable? Le but du diable, c'est de s'attaquer au peuple de Dieu pour briser la communion. Le but du diable, c'est de isoler les croyants. Quelqu'un qui est déçu de l'Église, qu'est-ce qu'il va faire? Et on l'envoie. Il s'isole. Il ne fréquente plus d'Église. Et Jean, on en a entendu. Le but du diable, c'est de décourager les croyants, c'est de décourager les serviteurs, de les arracher de leur service. Alors oui, nous a demandé de lui résister. Comment? En veillant et en étant ferme dans la foi. La foi en la parole de Dieu. Et c'est notre arme. On lui résiste en la citant à la face des puissances des ténèbres. D'où l'importance de la connaître. Je lisais encore tout récemment une exhortation à mémoriser, à prendre par cœur, non seulement des versets de la Bible, mais des chapitres entiers, voire même des livres entiers, avec des méthodes. Jésus, en faisant cela, nous imiterons Jésus, qui a dit, quand il a été tenté par le diable, en Matthieu 4, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Il a cité la parole de Dieu, il n'a pas cherché à discuter avec le diable, il a dit, il est écrit. Il a utilisé l'autorité de la parole de Dieu, et c'est lui que nous devons imiter. Oui, en résistant au diable, et certains chrétiens persécutés en savent quelque chose, résister au diable peut occasionner des souffrances. Certains ont été mis en prison à cause de ça. Mais céder au diable peut aussi occasionner des souffrances. Occasionne aussi des souffrances. En lui résistant, nos souffrances dureront un peu de temps, nous dit le texte. Un peu de temps. Et ces souffrances, elles amèneront à la gloire éternelle. Alors que lui céder au diable, peut avoir de lourdes conséquences à long terme. Déjà, des jeunes, ils n'ont pas pesé les conséquences de leur acte, qui ont pillé des magasins lors des dernières émeutes, eh bien, ils ont été en comparution immédiate, ils ont écopé de lourdes peines de prison pour certains. Juste, parce qu'ils se sont laissés entraîner. Il y a des conséquences à long terme de céder au diable. Alors oui, pour supporter la souffrance, toutes ces exhortations. Et puis aussi, et là, c'est là notre force aussi, notre force de nous rassembler. Et nous sommes en communion pas seulement entre nous ici, mais aussi avec mon frère, ma sœur qui est à l'autre bout du monde. Pour supporter la souffrance, pour Christ, je précise, nous sommes plus forts ensemble en Église. Et un encouragement pour nous, c'est de se rappeler que d'autres frères et sœurs, d'autres chrétiens quelque part dans le monde, passent aussi par les mêmes souffrances que nous. Par les mêmes. Ça m'a fait du bien d'apprendre qu'un frère avait traversé à peu près les mêmes épreuves, la même épreuve que j'avais une épreuve que j'avais traversée. Puis, en discutant avec sa femme, mais on a traversé les mêmes choses. Et combien je me suis senti mieux. Non, il ne faut pas se tromper de combat. Pierre connaissait bien les ruses de Satan pour y être tombé lorsqu'il a renié le Seigneur. Mais le Seigneur ne l'a pas laissé. Le Seigneur l'a relevé. Le Seigneur l'a affermi. Et c'est ce même Pierre qui nous a laissé cette épître, ce même Pierre à qui Jésus a dit « Affermis tes frères lorsque tu seras revenu », il lui avait demandé en Luc 22, 32. Eh bien, c'est ce qu'il a fait par cette épître. L'œuvre du Seigneur est efficace pour Pierre et pour nous. Jésus avait dit à Pierre de faire paître ses brebis en Jean 21, « Paie mes brebis ». Et le verbe traduit par paître, c'est intéressant, quel est le rôle du berger. Le verbe traduit par paître, ça veut dire nourrir le troupeau. Ça veut dire le soigner. Ça veut dire le garder les brebis, veiller sur elles lorsque le loup arrive. Ça veut dire aussi les gouverner, les conduire. Et ça veut dire bien sûr les aimer. Voilà ce que c'est que paître le troupeau. Et dans une église, ça va se traduire par compatir. Écoutez. Même si on n'a pas la solution, mais d'avoir une attitude d'écoute, d'empathie. Ça va se traduire par conseiller, trouver des passages bibliques qui vont aider la personne. Ça va se traduire par enseigner bibliquement à la personne. Dans une église, ça se traduit aussi faire paître les brebis par eh bien savoir discipliner, savoir réprimander quand c'est nécessaire pour le bien du troupeau. Et ça veut dire aussi encourager. Encourager les uns les autres. Alors, voilà un petit aperçu de la tâche des responsables. Pasteurs, anciens, responsables. Alors, vous comprenez qu'en considérant leur tâche, eh bien, les responsables ont besoin de vos prières. Ont besoin de vos prières. Et l'apôtre Paul, il termine comme il a... L'apôtre Pierre, pardon. Il termine comme il a commencé. Par une exhortation, la deuxième, à être sobre. On trouve la première en 4, verset 7. Et la deuxième, en 5, verset 8, « Soyez sobre. » Sobre, on l'a compris, bien sûr que... Soyez sobre pour être disponible pour prier. Priez, dans toute cette épître, c'est l'exhortation qui revient. Priez, déjà, c'est la première façon de nous humilier, ce qui nous est demandé. C'est en priant qu'on s'humilie. Priez pour discerner les ruses du diable et y résister. Priez pour remettre nos souffrances à Christ, à celui qui a souffert pour nous, Jésus. Priez pour nous décharger sur lui de tous nos soucis. Priez. Et il y a un retour quand on prie. En retour, le Dieu de toute grâce nous donnera la couronne de gloire, verset 4. La couronne de gloire parce qu'il nous a appelés à sa gloire. Et il le fera. Il nous rendra semblables à son Fils selon sa promesse. Il nous perfectionnera. Il nous affermira. Il nous fortifiera lui-même pour résister à la tentation. Pour qu'à notre tour, nous puissions encourager les frères et sœurs. Nous puissions nous exhorter, nous affermir les uns les autres. Et il nous rendra, Jésus nous rendra inébranlables. Inébranlables. Après qu'on ait souffert un peu de temps, il nous rendra inébranlables. Pourquoi ? Parce qu'il est notre fondement. Il est notre rocher. En étant sur lui, nous serons inébranlables. C'est lui qui le fera. Il est notre fondement. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le diable par sa mort et par sa résurrection. Alors pour toutes ces raisons, il mérite d'être loué et glorifié en Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin dans ta parole pour nous équiper. Pour ne pas que nous soyons surpris, Seigneur, lorsque il arrive des choses que nous ne comprenons pas, Seigneur. Tu nous as tout laissé dans ta parole, ce dont nous avons besoin. Donne-nous de nous en nourrir quotidiennement. Et donne-nous, Seigneur, de non seulement d'y baigner, mais, Seigneur, de prendre toutes les armes de Dieu, le bouclier de la foi, l'épée de la parole de Dieu. La ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le casque du salut. Seigneur, nous avons besoin de toi et donne-nous vraiment d'être disponibles pour prier. Oui, d'avoir ce rendez-vous avec toi, Seigneur, dans nos agendas où nous pouvons vraiment prendre ce temps avec toi quotidiennement, Seigneur. Un moment, un lieu précis, un moment précis, Seigneur, dans la journée. Seigneur, si toi tu as pris ces moments avec ton Père, à plus forte raison, on en a besoin, Seigneur. Donne-nous de vivre la foi, de vivre la vie chrétienne, Seigneur. De vivre nos rapports les uns avec les autres en suivant ton modèle, Seigneur Jésus, le modèle que tu nous as laissé par ta personne, toi qui as souffert pour nous. Quand les souffrances sont là, Seigneur, donne-nous de les interpréter à ta parole, même si nous ne comprenons pas tout. Mais nous croyons, Seigneur, qu'elles ne dureront pas toujours, parce que Seigneur, elles mènent à la gloire, Seigneur, avec toi. Je loue ton nom, Père. Merci de nous garder pendant la semaine qui vient. Au nom de Jésus-Christ. Amen.